Aujourd'hui, les enfants courent de maths. Dans une population donnée de 62 millions d'habitants, il y a 80% d'électeurs. 18% d'électeurs se revendiquent d'extrême droite. Un quart soutient le parti de droite qui a aligné ses positions principales sur le parti précédent. À cela, j'ajoute tous ceux qui soutiennent un candidat de gauche favorable à une gestion policière de l'immigration et à une moralisation du capitalisme, soit un quart. En tenant compte de cet énoncé, vous calculerez le pourcentage de la proportion de gros faf en France. Salut, salut, voilà, donc je vous le répète, si vous l'avez déjà entendu, vous êtes bien au fond, près du radiateur, tous les mardis de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 FM. Voilà, donc aujourd'hui, on est encore assez nombreux sur le plateau. Donc d'abord, bon, je vais faire quand même une petite dédicace aux absents, on en fait toutes, une d'ailleurs, donc à Raph, à Tom, à Sarah et à Mouloud, voilà, une grosse dédicace. Et puis ensuite, je vais présenter un petit peu les gens sur ce plateau. Donc à côté de moi, y a Tom.
Salut.
Y a Yann.
Salut.
Et puis en face, en diagonale, Olivier.
Salut, salut.
Et Théophile.
Salut.
Et à la technique, on a Maté Flingue et Tiffen.
Bonsoir, bonsoir.
Salut.
Voilà, voilà, tous au complet donc, pour une émission voilà, qu'on va faire dans la joie et la bonne humeur. Avant de vous parler du sommaire, je vous rappelle donc, les adresses internet où vous pouvez nous joindre. Donc déjà un site internet, au fond près du radiateur.fr. Et puis ensuite, un mail, au cas où si vous voulez nous joindre pour nous donner des informations, faire des commentaires ou quoi que ce soit. C'est au fond près du radiateur, @no-log.org. C'est tout en attaché et tout en minuscules. Voilà.
Voilà, et pour le sommaire de cette émission, en première partie, on va d'abord parler, on va faire un long point donc, sur l'enfermement et la rétention des étrangers en lisant quelques témoignages donc, de l'intérieur de ces prisons. Puis, en un second point, on va parler donc à l'occasion de la sortie d'un nouveau code de la sécurité intérieure. On analysera tout ça donc en compagnie de Théophile qui est venu exprès pour l'analyser avec nous. Et puis, dans une troisième partie, il y aura notre désormais célèbre rubrique FAF, mais ça sera la surprise pour cette fin d'émission. On vous en dit pas encore le sujet. Voilà, et puis on va commencer tout de suite cette émission en s'écoutant un morceau du nouvel album de La Rumeur qui vient de sortir. C'est Tous ces mômes vont grandir, et on écoute ça tout de suite.
Tous ces petits mal assis en roue arrière sur les chaises et les tables. Des portées de crabes dans les cartables. Tous ces mômes circoncis que les grands esprits ont rendus détestables. Tous comme ils peuvent sur des champs de sable. À la soif, à la faim, à l'abri de rien. Au culot, à l'usure, au hasard des murs. Dans la fièvre électrique de leur taux d'hormones. Dans l'éloignement de leur mère ou sous les yeux d'un drone. Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous, une coulée de mazout avant que les arbres repoussent. Il y a la caverne et ses théâtres d'ombre. Et puis les miracles de la loi du nombre. Et oui, tous ces petits pressés et furieux, tous ces pense-vite nombreux, nombreux.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils seront quoi dire?
Ils seront quoi dire?
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. enragez-les tous. Tous ces mômes vont grandir, ils sauront quoi dire. Une fois en âge de choisir, entre le chômage de masse et les vrais liasses, moisir sur place, près d'un centre de loisirs ou d'une grande surface, les gyrophares en pleine face. Génération smartphone, bac pro, réseaux sociaux. Retrouvée morte sans casque sur une mini-moto ou derrière la porte d'un transfo. La goutte de trop, tenez-vous prêt pour la suite. Le vivre ensemble reste un mythe, secret dans la haine des schmites. J'ai des pistages précoces, des enfants à risque, affaires à suivre comme une page de plus. Au chapitre des lois Karcher, après caillassage de bus. Parce qu'en germe dès le fœtus, c'est juste aujourd'hui, demain. C'est juste tragique, c'est juste hors du commun.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous.
Quand au printemps ne fleurissent que les peines de placard, scolarité bousillée pour les trois quarts, comment viser la réinsertion si ce n'est du bout d'un Glock, ce qui n'est pas forcément du goût d'un proc. Malheureusement c'est ce futur qui vous regarde dans les yeux. Du fond d'une cellule où le matelas a pris feu, c'était assez con pour croire qu'ils vont se contenter de peu. Du peu d'espoir investi dans un sachet de peu. Ouais, sa plante fait pousser, ça réinvente les colcoses. S'ils se battent, ils ne savent plus pour quelle cause. Des Yvelines à la Seine-Saint-Denis, quartier sous cadenas, attaché comme un flic à son café Calva. Et ce n'est que l'échauffement, tu m'étonnes que ça grelotte. Dis-moi ce qui vient plus froid que l'acier d'une paire de menottes. Fausse note ou pas, toujours cette même musique, électronique comme un bracelet sous la tunique.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les.
Tous ces mômes, ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire.
De retour au fond près du radiateur sur 106.3 FM, fréquence Paris pluriel, voilà. Donc on vient de s'écouter donc un tous ces mômes vont grandir, donc dernier album issu du dernier album de La Rumeur, voilà, sorti la semaine dernière.
Sorti hier.
Non,
qui s'appelle
quoi.
Tout brûle déjà, et puis bah on aura l'occasion de vous le faire un petit peu découvrir peut-être dans cette émission.
Voilà, donc après la bonne musique, directement rentrons dans le vif du sujet. Donc c'est toi Yann qui va nous parler un petit peu donc de l'enfermement et de la rétention des étrangers.
Voilà, ça fait quelques semaines maintenant qu'on en a plus beaucoup parlé dans cette émission, et c'est vrai que c'est toujours important et ça nous tient énormément à cœur de faire sortir les informations et puis les témoignages des gens qui sont enfermés à l'intérieur des centres de rétention en France, puisque c'est une réalité, on le rappelle, hein, non seulement il y a des prisons hein, pour les délinquants qui sont punis par des lois, par des peines criminelles, il y a aussi des prisons pour les étrangers qui sont punis parce qu'ils n'ont pas un petit bout de papier qui leur permet de rester en France. Donc ces prisons, elles ont toutes les caractéristiques des prisons dans lesquelles on enferme les criminels, sauf qu'on appelle ça centre de rétention. Et nous, on voulait le rappeler quand même qu'on vise, en tout cas par le biais de ces témoignages et leur diffusion, à faire cesser de fonctionner ces lieux de torture et d'horreur qui n'ont pas lieu d'être déjà dans cette soi-disant démocratie française, mais qui n'ont pas lieu d'être en règle générale. Donc dans ces centres, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cabines téléphoniques dans lesquelles sur lesquelles on peut passer des coups de fil. Les numéros sont accessibles très facilement sur Internet et on peut tomber sur n'importe qui est enfermé et qui veut bien un peu raconter son histoire et ce qui se passe à l'intérieur durant sa durée de rétention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même maintenant de plus en plus de gens qui font ça, et ça permet quand même non seulement d'avoir la vision de chaque être humain qui peut être amené à subir cet enfermement, mais aussi de réels témoignages de lutte, de solidarité qui s'y passent à l'intérieur et qui nous font espérer que les choses ne sont pas figées, qu'on n'est pas seulement dans un mécanisme de du tout sécuritaire qu'on essaye de nous imposer en ce moment et dont les médias en parlent énormément et le vendent vraiment très facilement à la population. Non, quand on entend ces témoignages et quand on essaye de se bouger pour les faire sortir, on, on voit quand même que voilà, tout ne peut pas rester comme ça l'est. En tout cas, il y a des gens qui se bougent pour que ça ne le reste pas. En tout cas, on va parler de 3 centres de rétention aujourd'hui, voilà, qui sont dans la région parisienne, parce qu'on a l'habitude de parler de celui de Vincennes, qui est le plus proche physiquement des endroits où on se trouve. Mais voilà, c'est important aussi de noter que à travers tout le territoire, voilà, les conditions non seulement reviennent à chaque fois, sont humiliantes, dégradantes, mais surtout c'est l'enfermement et puis le sens de cet enfermement qui revient à chaque fois dans les témoignages et qu'on va essayer d'analyser ce soir. Donc on va commencer par un témoignage du centre de rétention de Plaisir du 13 avril 2012. Alors à savoir qu'il y a une petite note quand même avant ce témoignage que les auteurs ont tenu à mettre. Donc, de nombreux mouvements de protestation dans les centres de rétention commencent par des conflits liés à la nourriture. Derrière ces problèmes, en apparence liés à des conditions de rétention, il y a la question de l'enfermement en lui-même. L'État ne cesse de répéter que les centres de rétention ne sont pas des prisons. Or, les gens, ils sont contraints de manger des choses qu'ils ne veulent pas et ne peuvent vivre cela comme une humiliation.
Ça fait plusieurs semaines qu'on mange toujours la même chose. Du yaourt et du pain, quoi. Ils veulent pas comprendre que les musulmans qui ne mangent que du halal ne toucheront pas à du bœuf, même bien cuit. Et que si le légume est mélangé à la viande, on n'a pas le droit de manger non plus. Ça fait plusieurs jours que nous demandons de préparer des menus nous-mêmes. Du poisson plus souvent. Certains disent un repas sur deux, peut-être même deux par semaine suffirait. On appelle ça équilibrer les repas. On a voulu en discuter avec les policiers chefs qui décident. Un gradé nous a répondu hier, c'est pas nous qui décidons, c'est une société privée, alors prenez, sinon vous ne mangez pas. On voulait écrire nos demandes de nourriture, faire des signatures. On a commencé aujourd'hui. À midi, le repas, on aurait dit qu'il l'avait fait exprès. Salade au poulet mélangée, bœuf aux olives mélangées, crème dessert comme un yaourt. Alors tout le monde a laissé ses barquettes pas équilibrées mélangées. On pouvait même pas manger la salade et les légumes qui avaient touché la viande pas halal et on a demandé à leur parler. Comme tous les jours, on quittait la table avec un yaourt, un peu de pain, de l'eau et encore la faim au ventre. Si on a faim, on peut seulement acheter au distributeur un paquet de gâteaux, 1,50€, un soda, 1,50€, ou une barre chocolatée, 80 centimes. Il n'y a rien d'autre. Et tu te fais tout tirer avant de le mettre dans la bouche, parce que les autres, il n'y a personne qui possède seulement 5 centimes. Les policiers étaient énervés, en colère. Nous, on voulait juste expliquer qu'on avait faim. Le ton est monté, le chef de centre est venu. Ça le mettait encore plus vénère, mais on ne voulait pas que ça mette le dawa, on restait cool. C'est une armoire de 2 mètres, balèze. Il a pris un gars qui parlait trop bien le français, de 1m80, qui n'avait rien fait. Il lui a dit « Suis-moi jusqu'au poste. Ici, tu penses en minutes. Ton heure d'arrestation, de sortie de garde à vue, de mise en CRA. » Quelqu'un a dit l'heure qu'il était. Ils sont partis vers le poste, mais ils se sont arrêtés pour entrer dans la chambre 7, qui n'est pas la sienne au gars. 2 policiers étaient dehors. On savait bien qu'il est entré là parce qu'il n'y a pas de caméra. Mais on était loin et on n'entendait rien. Il est sorti et il était bizarre, il se tenait partout. Dans les chambres, il y a 2 lits, 2 chaises, une table fixée et les casiers. Le gars dit que le chef lui a mis la main derrière lui et l'a poussé sur les casiers et le tenait plaqué contre un casier en lui serrant le cou pendant 1 minute. Il pouvait plus respirer, plus crier. Quand ils sont ressortis, il a demandé à voir le docteur aux 4 policiers qui étaient restés dehors. Ils ont dit « le docteur travaille pas aujourd'hui ». Mais on est allé l'accompagner et il avait des traces toutes rouges sur le cou. Il a vu l'infirmière qui a appelé le docteur, qui lui a fait un certificat coups et blessures et griffures et le doigt tordu. Il sait même pas comment. Avec son certificat, il est allé voir FTDA et ils font porter plainte contre le chef de centre. Mais toute l'histoire, ça fait pas 2 heures après le déjeuner. Et ils lui ont dit de prendre ses vêtements, ils l'ont amené ailleurs dans un autre centre.
Voilà, on va continuer donc avec un deuxième témoignage qui vient celui-ci de la prison, donc du centre de rétention de Vincennes, du bâtiment 1, et qui a été donc pris le 16 avril 2012, donc le 16 avril dernier. C'est la merde, ça pue. Il n'y a rien, c'est la merde. Les toilettes, elles puent, les policiers, ils ne nous respectent pas, c'est la merde, quoi. Mais ce matin, ils ont frappé quelqu'un, un petit. Je ne sais pas pourquoi. Il a fait une plainte, là, il va passer demain. Je ne sais pas, là, il va aller à l'hôpital. Il est là, il a vu l'infirmière, elle a fait une feuille et tout. Bah, ils l'ont faxé au tribunal. Après, le procureur, il a dit, faudrait l'amener à l'hôpital. Il l'amène demain, peut-être demain matin. La nourriture, c'est la merde, ça pue. Par exemple, moi, ça fait 5 jours, je n'ai pas mangé. Je ne peux pas. Si je le mange, je la vomis. Les toilettes, elles sont bouchées, ça pue, les douches, elles sont sales. Dans le centre, il ramène, il renvoie, des fois il libère, mais il est toujours plein. Le médecin, il arrive, il appelle 2 fois, 3 fois et il part. Il dit comme quoi il y a trop de monde. Comme moi, ça fait 2 jours que je réclame. Comme ce matin, je me suis inscrit hier, ils m'ont dit, il t'a appelé. T'étais pas là et après il est parti. Il y a trop de monde. L'infirmière, bah franchement, les infirmières, elles donnent des cachetons. Les mecs, ils sont comme des fous. Tout le monde réclame des cachetons. Ils prennent des cachetons pour dormir, pour ça, pour ça, pour ça. Ils sont fous. Ils sont accros à des je sais pas quoi. On dirait on est à la Colombie ou je sais pas. Tous les jours, les mecs, ils avalent n'importe quoi. Des cachetons rouges, des cachetons bleus, des cachetons jaunes, je sais pas. Voilà, ça c'était donc un témoignage du centre de rétention de Vincennes du bâtiment 1. Et je vais vous en lire un deuxième tout de suite qui nous provient du bâtiment 2. Ici, il y a de la solidarité. Heureusement, surtout entre nous, les Arabes, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Égyptiens. Même il y a des Hindous, on s'entend bien avec eux. Tous, on est dans la même merde. Pourquoi on serait pas solidaires? Il n'y a pas de problème. Avant-hier, il y en a un avec le rasoir qui a déchiré son corps. Je pense que c'est un Marocain ou un Algérien. Je sais pas. Il y a des gens qui le font, en tout cas. Ici, il y a deux infirmières. Ici, il y a deux infirmiers. Ils sont franchement racistes. Ce sont des racistes. Tous ici, on est des blagues, des hindous, des arabes, et ils se plaignent d'eux. Ils s'en foutent. Si tu n'es pas content, dégage chez toi, elle m'a dit. Moi, personnellement. Il y a un blague pareil, elle lui a dit, vous faites quoi ici? Moi, je lui dis, excusez-moi, madame, si vous dites ça, vous restez chez moi, comme je suis tunisien, vous restez chez moi. Même 89 ans, même vous êtes venu avec des chars armés, des avions de chasse. En plus, vous étiez plus que 300 000 personnes. Et là, maintenant, tu me dis, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici? Moi, je suis un voleur? Je suis pas un machin, moi, je viens ici pour travailler. Ils parlent très, très mal, franchement. On les sent agressifs, grave. Ils donnent des médicaments, mais ils en manquent. Il manque du sirop, il y a des gens qui toussent. En plus, il y a des portes qui ferment pas, des grandes portes qui font des courants d'air. On est tout le temps grippé ici, tout le temps. J'ai dit ça au commandant. Il y a 5 ou 6 personnes qui prennent des calmants parce qu'ils sont pas bien. Déjà, depuis dehors, ils sont pas bien. Il y en a un, il était bien, là maintenant, comme un drogué. C'est eux qui font ça exprès. Ils donnent les médicaments, boire ça bah, pour nous calmer, pour les calmer. Voilà, donc c'était plusieurs témoignages qui nous provenaient des centres de rétention, donc de Vincennes et du centre de rétention de Plaisir.
Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est aussi que dans cette belle campagne qui nous tombe, qui sont sur nos côtes en ce moment, la question de l'enfermement, que ça soit à gauche, à droite, partout, elle n'a jamais été abordée, que ça soit les prisons comme les centres de rétention. Voilà, on sait dans le cas des centres de rétention, que l'immigration, ça reste quand même le problème majeur, donc ne surtout pas toucher, ça reste un sujet très tabou.
Bah, ce problème-là, en fait, il est véritablement abordé comme un problème, tu l'as bien dit. Et puis de toute façon, on va le voir à travers cette émission, on va beaucoup en parler. C'est dans un cadre répressif, il est vu dans un cadre répressif. Et toutes les lois qui sont conçues pour pallier à ce problème sont de l'ordre du répressif et du sécuritaire. Et l'enfermement fait entièrement partie de ce système. Quand on parle de la nourriture qui est dégueulasse dans les témoignages, des douches qui ne sont pas lavées, on sait aussi que l'État et les entreprises qui sont derrière la gestion des centres de rétention se font énormément d'argent sur le bénéfice qu'on peut tirer de ce cadre-là. C'est-à-dire ils donnent justement la gestion de la bouffe, par exemple, à une entreprise privée qui gère ça de façon industrielle, comme on pourrait nourrir des cochons dans une ferme. Et on s'en fout des revendications humaines des gens. Donc c'est pour ça qu'on le répète à travers les témoignages qu'on fait sortir, qu'on parle de douche, de plats, de manger halal, de saleté. C'est des conditions qui sont réelles que des gens vivent au jour le jour. Mais ça répond d'une logique qui est bien plus grande. Et même on se rend compte à travers tous ces témoignages que, en fin de compte, l'enfermement en entier, la logique de cet enfermement est incompréhensible. Non seulement la déchéance est réelle au quotidien, mais même, je pense qu'on a le temps de réfléchir justement quand on est enfermé, on n'en comprend aucunement la logique. Et voilà, et c'est pour réfléchir à tout ça et pour faire essayer un maximum de parler de ça en dehors de toutes les échéances qu'il peut y avoir politicard à la con, qu'on met ça sur la table et qu'il faut essayer de le reproduire un maximum. Dans ce cadre-là, je voulais aussi annoncer la sortie d'un magazine qui sort à peu près tous les trimestres et qui s'appelle L'Envolée, donc qui traite de l'enfermement et du monde carcéral et qui essaye d'aller en ce sens et où il y a aussi pas mal de choses sur les centres de rétention. Et donc là, le numéro de mars 2012 vient de sortir, il est au prix à peu près 2 euros et vous pouvez le trouver notamment dans les locaux de la radio.
Voilà. simplement pour dire que voilà, une fois de plus, réappuyer sur l'idée selon laquelle ce dont témoignent ces entretiens qui sont retranscrits et qu'on vous lit, c'est pas seulement de conditions absolument insupportables et de l'ordre de la torture, mais ça témoigne réellement du fait que l'enfermement et le fait d'enfermer des gens leur enlève leur droit d'être considérés comme des humains dans l'absolu.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique, et c'est une logique de destruction des gens. Penser.
Voilà. Et qui fait bien sûr des bénéfices sur ces belles paroles. On fait une petite pause musicale.
Et juste avant, je voulais juste rappeler, par rapport aux ondes à la radio, que quand même c'est intéressant aussi que nos voix puissent être portées à l'intérieur des prisons et des lieux d'enfermement, puisque tout le monde peut encore avoir la radio dans ces lieux-là s'il le souhaite et s'il se démerde bien. Et du coup, je vous rappelle quand même qu'il y a une émission, notamment L'Envolée, qui parle vraiment de ça, qui est le vendredi de 19h à 20h30, et qu'une nouvelle émission, maintenant, tous les premiers vendredis du mois, à ce même créneau, vient de sortir sur FPP, qui s'appelle Sans papiers ni frontières, et que vous pouvez aussi retrouver sur notre site au fond près du radiateur.fr. On fait une pause musicale tout de suite.
Let's go, come on. I spit sick verses that cause a worldwide panic. In Germany, they love me like Jermaine loves Janet. Uh-huh. The way that I spray a biblical passage remains unexplained like Aramaic tablets. Yeah. I animate a canvas, freeze words like icicles from the Appalachian cabin to the streets of Brooklyn. That's the aesthetic. My speech reaches the African beaches. The flow's pandemic. Y'all non-athletic. I'm so authentic. You're a relic, a clone. Don't get your bones augmented. I'm a soldier from the east with a toaster full of heat that'll roast it over and over till your chromosomes start to leak. A rock on a slow groove, rock to a show tune. Travel the black forest on black horses with my snow goons. 100 mph Autobahn rhyme flow. I shine like Biggie tribute t-shirts with the rhymes. Till I kick stay clean, I spit so mean. From head to toe, it's a go like green grass in the morning. When you rap, I'll be yawning like, get this cat here coughing. Yeah, my kick stay clean, I spit so mean. From head to toe, it's a go like green grass in the morning. When you rap, I'll be yawning like, get this cat here coughing. I'm a myth brought to life, a whiskey fifth over ice. What I spit is precise, Richie Rich with a gripe. Cause my dough isn't right, but my flow is so tight. Like coochie from a dyke, I'm a newly with a mic. The Illuminati probably watch me from rooftops at night. Cause I'm pro freedom, like Martin Luther getting sniped. In the crosshairs of life, my goons traveling packs with chains, knives, bats, yo, back. From Berlin to Carl's room, I cruise beyond you with a rhyme. Us whack nine, catch atomic bomb to your spine. The Crypt Keeper, sick teacher, I spit ether. And flip beamers, you can't fuck the track with a limp wiener. The fifth linear, like a Heron fiend. I get your spot blown up like an Enron scheme. Yo, my kicks stay clean, I spit so mean. From head to toe, it's a go like green grass in the morning. When you rap, I'll be yawning like, get this cat here coughing. My kicks stay clean, I spit so mean. From head to toe, it's a go like green grass in the morning. When you rap, I'll be yawning like, get this cat here coughing. Get this cat here coughing. Yeah, you know how we do. It's Pumpkinhead, Brooklyn act, rocking with the snow goons on this track. Yeah, we worldwide right now, man. You don't understand it. German Lucas style. Blah! What?
Voilà, de retour donc au fond près du radiateur, un petit Snow Goons featuring Pumpkinhead, Snow Goons Sonata. Voilà, et maintenant on reprend avec Mado, c'est ça?
Bah ouais, c'est ça. Donc on entre dans la deuxième partie de cette émission où on s'est dit qu'on allait prendre un petit peu de temps avec notre invité au fond près du radiateur, Théophile. Voilà.
Salut.
Donc qui est déjà venu une ou deux fois. Et puis comme d'habitude, en fait, souvent, on essaye de voir un petit peu comment certains textes de l'ordre de la loi, etc., nous semblent illustrer des dynamiques qui vont dans un sens qu'on met en cause, clairement. Donc, principalement, aujourd'hui, c'était sur le sécuritaire, dans son ensemble, c'est-à-dire qu'à l'occasion de l'instauration du Code de la Sécurité intérieure,
autour duquel on avait déjà fait une petite rubrique FAF dans l'émission, donc qui va être instaurée le 1er mai. Voilà. Bonne date et tout, sympathique. On s'est demandé un petit peu de quelle manière un peu c'était autour de quoi c'était un petit peu articulé toute cette dynamique sécuritaire au sein de la législation et qui aboutit quelque part un petit peu voilà à l'instauration d'un code de la sécurité intérieure.
Et c'est important justement de comprendre vraiment ces textes et essayer de les analyser en profondeur parce que des fois ça peut voilà nous tomber dessus par le biais d'une arrestation policière et bah, là on peut avoir voilà un peu des indices très juridiques un peu techniques mais qui sont tout à fait intéressants à prendre en compte dans cette logique là quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu deux axes voilà qui ont du sens quand on essaye de faire ça. C'est d'une part voir un petit peu pratiquement comment est-ce que ben oui et tout quand on connaît deux trois trucs et ben on peut des fois passer à travers les mailles du filet. Voilà, à travers deux, trois techniques, etc. Et aussi, un peu comprendre comment, enfin, en tout cas, témoigner véritablement quelque chose qu'on essaye de dire dans cette émission depuis plusieurs mois, qu'il y a un moment donné où le législatif et le judiciaire, c'est pas du tout distinct du politique, du gouvernement, de l'État, et qu'à un moment donné, ça semble très peu indépendant et ça semble plutôt servir certains intérêts. Et dans ce sens-là, en lien avec justement le fait de commencer cette émission par discuter bah voilà, de l'enfermement des étrangers, on peut remarquer que quand on nous parle de sécurité intérieure et de sécuritaire en général, on désigne toujours deux personnes ou une seule personne qui réunit les deux conditions, c'est-à-dire une forme d'ennemi extérieur sous la figure de l'étranger et une forme d'ennemi intérieur voilà, sous la figure plus ou moins proche d'un terroriste ou d'un fou qui donc par contre mais instaure tout de même un climat de terreur. Et donc bah, dans ce sens-là, on s'était dit qu'on allait peut-être commencer un petit peu par discuter de l'évolution du droit dans le rapport à un moment donné à l'enfermement des étrangers et donc à un début de criminalisation et de voir comment s'est instauré un peu cette idée d'un étranger, c'est un criminel, pour voir un petit peu comment, à travers le code de la sécurité intérieure, on peut entériner une autre forme aussi de criminel et dans quel sens tout ça a un but très simple, quoi, qui est le pouvoir, voilà, une fois de plus. On en arrive toujours à la même histoire. Donc bah, on va peut-être, on commence peut-être avec... voilà, avec la législation autour des étrangers. Quoi.
Mais c'est sûr que si on commence à aborder la question du sécuritaire, la question de l'étranger est dans l'histoire du droit extrêmement liée. Et notamment, Yano, tu nous parlais de l'enfermement et justement du statut de ces centres de rétention administrative, où là, on peut vraiment voir à l'œuvre une criminalisation justement de ce qui est une irrégularité administrative, un problème de papier, genre une criminalisation... D'ailleurs, rappelons-le, entériné par Mitterrand en octobre 81, en créant les centres de rétention et en mettant des peines pénales, genre pour le défaut de régularité quant au séjour. Donc, de fait, l'étranger, dans les pratiques administratives, est toujours concerné par des techniques d'État vraiment spécifiques à une catégorie de population qui est ciblée. Et finalement, à travers l'idée d'une criminalité, provenant de l'étranger, en tout cas par ce processus de criminalisation, on justifie donc des procédés d'exception, en termes de droit en tout cas. On peut voir que, en fait, il y a une expansion des techniques qui seront à l'origine liées proprement au crime et à la répression du crime, notamment on peut voir à la fin du 19e, avec l'arrivée des empreintes digitales, comment c'était la répression du crime qui était moteur des techniques d'identification et comment ces techniques, après cette justification première et après être entrées finalement dans les mœurs, entre guillemets, elle a pu se généraliser, notamment dans le corps des étrangers, donc qui là dépassait complètement l'objet du crime, mais c'est le propre justement de la criminalisation, c'est cette idée que ce qui n'appartient plus au crime, mais des techniques qui sont pourtant dédiées et justifiées par le crime, sortent de ce domaine et s'étendent à d'autres domaines, et notamment on va voir sur la question des étrangers. Si on regarde, pour prendre des exemples un peu dans l'histoire, sur les étrangers, ça commence, on l'a dit, par les empreintes digitales, pour le recensement des populations, le contrôle des flux migratoires, notamment, ça s'est pas mal développé dans les zones coloniales à l'époque, alors que c'était un procédé qui, à la base, était pour les pires criminels. De même, la question de l'ADN, qui de fait a été la pratique de l'empreinte ADN a été à la base légitimée par, on nous disait, les violeurs, les pédophiles, pour créer une valeur morale sûre, indéniable, qui permet de justifier l'introduction de cette pratique, et après on l'étend. Et de fait, assez vite, elle va rentrer dans la législation, notamment avec Sarkozy, sur le contrôle du regroupement familial et les liens du sang entre les populations étrangères.
Mais d'ailleurs, ça va même plus loin, parce que ça va aider aussi à tout ce qui va être sur les débats maintenant qu'on appelle de l'ordre de la biométrie, quoi, tout ce qui concerne la biométrie.
Bah clairement, et ça, on peut voir que, encore une fois, ça va être les populations étrangères qui seront les premières impliquées dans ces processus, notamment le rapport à l'extérieur, puisque c'est les passeports qui ont été en premier munis de l'appareil biométrique. Donc l'appareil biométrique, c'est une petite puce type RFID qui est dans le passeport, qui contient des informations, notamment la couleur de l'iris, la photographie numérisée, qui permet ensuite la reconnaissance faciale par des nouveaux systèmes de vidéoprotection et les empreintes digitales. Dans le cas des étrangers, à présent, dès cette année, c'est les cartes de séjour biométriques qui ont été instituées. Cartes de séjour qui comportent en plus dans cette puce, au-delà des mentions qu'on a déjà évoquées, genre les 10 pièces principales de son dossier de séjour, notamment adresse de l'hébergeur, adresse de la prise en charge financière. Comme ça, on a les noms des gens, suffit de passer devant une borne et tout arrive à n'importe quel contrôle de flic. Et ça, voilà, on a vu ça, c'est arrivé par un décret de juin dernier. Les premières cartes sont sorties. Et là, on arrive, une fois que le système est rodé, expérimenté, aux cartes d'identité biométriques là, qui vont être en œuvre dès janvier 2013. Voilà, c'était pour penser un peu cette dynamique.
Après, moi, je voulais vraiment juste noter, à un moment, tu as dit que ça donne vraiment un crédit moral à la population que, par exemple, utiliser voilà, les pires violeurs ou les pires criminels pour justifier après, par exemple, voilà, le fichage des étrangers ou des populations en général. C'est aussi pour faire un parallèle avec aujourd'hui ce qu'on appelle les peines de sûreté qui aussi permettent de garder soi-disant voilà, les pires violeurs ou les pires criminels en prison indéfiniment sur la simple commission voilà, d'experts psychiatriques et de gens appartenant à l'administration pénitentiaire. Il faut savoir que cette loi de la rétention de sûreté, un nombre incalculable de détenus qui ne sont pas des violeurs en puissance la subissent aujourd'hui et se voient presque enfermés à vie derrière les barreaux. C'était aussi pour faire ce petit parallèle-là.
Voilà, non mais c'est exactement ça le processus, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, on détermine voilà, une situation particulière qui va se présenter comme une situation d'exception, et qu'ensuite, à partir de pratiques qui sont mises en place, on va se mettre à dire, mais en fait, regardez, et tout, ça marchait vachement bien pour ces situations-là. D'ailleurs, ça se justifiait. Et pour d'autres situations qui potentiellement sont dangereuses, donc d'un coup, on introduit un potentiel de dangereux et de criminalité voilà, dans une irrégularité qui est administrative, on va faire exactement la même chose et on va agrandir. Et c'est aussi des choses qu'on peut faire aussi bien, on l'a vu, on peut le voir là avec donc, une population déterminée qui va être déterminée comme étrangère, mais c'est aussi des choses qui sont faites avec des populations déterminées comme délinquantes. Donc c'est toujours la même chose, sectoriser voilà, un fait, à partir de là, élaborer quelque chose qu'on justifie et ensuite l'agrandir. Et ça, un peu finalement dans une dynamique de frappe préventive en fait.
Ouais, mais justement, en fait, c'est vraiment ce qu'on peut observer. Il y a un renversement à un moment qu'on peut situer peut-être à la fin du 19e, la gloire de la 3e République et tout le nazi qui se prépare en puissance dans un sens. Mais en même temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un vrai renversement puisque on part de la répression d'un fait, d'un crime, donc de pratiques qui sont propres à cette répression, à un outil de prévention, en fait. À un outil où on n'attend plus l'acte, où on crée des catégories de population et on applique une suspicion généralisée. Et donc ça passe ensuite le premier mouvement vers la première forme de population qui est plus personnalisée dans le traitement, les étrangers, ensuite pour l'étendre à l'ensemble de la population. Donc voilà, c'était vraiment mettre en avant un peu cette idée de laboratoire des pratiques sécuritaires à travers une population transitoire ciblée. Et en même temps, toi, la question que tu soulevais, Yano, sur la peine de sûreté, je propose qu'on y revienne aussi dans le deuxième point qu'on avait un peu préparé, et sur la question justement du contexte un peu du contexte intellectuel ou scientifique du sécuritaire qui est en train de prendre forme, et de voir les résurgences de vieux démons, encore de la Troisième République d'ailleurs, qui vont légitimer ces formes de pratiques quoi, d'enfermement ad vitam.
Voilà, donc en cette période républicaine et démocratique, on va faire une petite pause musicale et on reviendra sur tout ça et sur le faf de tout ça.
Yeah. My people sitting in San Quentin and Clinton. Rackers Allen, Rackers Allen, Rackers Allen. I wake up to them rapping tunes every afternoon. I'll be home soon. I see the boys sometime after June. Met a couple of convicts that's way beyond sick. It seemed they dig my style cause I'll be on some darn shit. Laid back. I ran into some brothers from way back. Those I dealt with, hard besides that black. I don't say jack. I stay in tune with the sun, stars, and moon. Cause behind bars, you're doomed if your mind can't consume. But spiritual pain can bring forth physical rain. And without knowledge yourself, how else can a criminal change? And being locked up just ain't the life for me. Shit is way too trite for me. You're coming home soon, sounds so nice to me. But you can bet I'm bouncing out with mad props. And if I get chopped, then knock, baby pop. My world won't stop.
Yo, nigga, I got 25 mic up in here, nigga. I'm
Mace all end up the same for blowing backs out. 5 to 15, seeing the bean until they max out. Misbehaving, acting uncivilized like cavemen. I witnessed brave men that gave inside of minds and turned the game in. Nobody's playing. Trauma prisoners be posted praying on some lotion laying. Sleep, get your whole shit banged in. Hanging pursues to warn you. Out of the hell these inmates going through on behalf of a form crew. Doubt if anyone is normal and overall, it's hard to call who would try to play you. One kid from my tombs caught a car boom through his navel. Nothing to save you, even COs will try to grave. You was painful to even know those who most faithful love betray you. I lay low key, cause I ain't Hercules. Trying to get out early on work release. Praying the system work with me. Cause I ain't trying to see three hots in a cot. Two I rot, that ain't my plot, baby pop. My world won't stop. Until that day I'm discharged and set free. Fuck who's gonna sex me. My mind's more based on making my next G. Now let's see, left alone me is a juvenile. No more moving foul, a P now. Possess me with this move and style. Blessing my mental with mathematics to map shit. The graphics, fuck it, I ain't with hustling backwards. So wise a man with ideas and lava plans. More mature and for sure than so all my eyes can stand. Sitting trying to design these words of mine to define what occurs when you're serving time. Stress just blurs the mind behind bars, scars. The signs of hard times, I'm trapping myself in between these lines. But I ain't trying to see three hots in a cap. Two hours rot, that ain't my plot, baby pop. My world won't stop. Yeah, representing all the fellas on lock, diggity. From upstate to downstate. Don't stop, Paul. Don't stop, Paul.
Yes, de retour au fond près du radiateur, on vient de s'écouter AZ, your world, don't stop. Yeah, yeah.
Voilà, voilà. Et donc, on reprend le fil de la discussion qu'on avait un petit peu entamée donc avec Théophile. Donc, principalement, pour poser le point de départ, le résultat, enfin, un peu ce qu'on tire comme analyse un petit peu de la question aussi de partir sur le sécuritaire au niveau de l'étranger pour ensuite le généraliser, c'est la question aussi principalement d'une répression qui à la base était réactive et qui devient anticipative, donc qui en réalité se résume à une volonté de contrôle plus grande. Et donc simplement, on va commencer avant de parler donc de ce contrôle qui s'incarne dans l'idée de sécurité intérieure, de un petit peu comment ça s'est présenté au départ, quoi, un peu l'historique de cette idée de sécurité intérieure.
Bah en fait, la sécurité intérieure en tant que notion instituée, c'est plutôt récent. En fait, il y a en 91 la création de l'Institut d'études supérieures sur la sécurité intérieure. 96 au Conseil à la sécurité intérieure. Et en fait, ça émerge doucement jusqu'à son apogée aujourd'hui avec ses plus grands théoriciens directement nominés, sans aucune qualification scientifique, directement nominés par Nicolas Sarkozy, notamment Alain Bauer.
Ouais, qu'on connaît bien dans la rubrique FAF.
Alors Alain Bauer, on le rappelle, était vice-président de Paris 1, à l'UNAFIDE évidemment, et il finit avec la pire des extrêmes droites qui existe aujourd'hui dans nos institutions. Donc en fait, le gros de cette nouvelle théorie, nouvelle criminologie, c'est de réintroduire dans les institutions et au niveau scientifique la notion de dangerosité. La notion qu'un individu a une dangerosité potentielle qu'on doit appréhender par des techniques de contrôle, d'enfermement spécifiques. Alors après, la question se pose de quels critères donner pour évaluer une dangerosité. Ça ne peut être que l'arbitraire, forcément. Le principe d'une peine, c'est qu'elle est limitée. Si elle devient illimitée, c'est l'état autoritaire. Et donc, justement, ça rentre, cette notion de dangerosité, dans la question de l'état d'exception. En fait, on crée des marges de manœuvre à vue. En fait, c'est les politiques déterminent là où ils décideront d'appliquer les règles ou non. Et donc, pour revenir plus précisément sur le code de la sécurité intérieure, donc, qui est paru au JO, c'était 13 mars là, 2012, qui entrera en vigueur au 1er mai. Alors rappelons-le, le code de la sécurité intérieure, donc c'est un truc qui était...
Déjà, c'est quoi un code ? Ça sert à quoi un code normalement ?
Voilà, justement, pourquoi un code ? Quand on codifie, en fait, alors là, il y a une...
Dans un premier temps, juste au niveau juridique, comment on nous le présente ? Genre, tu vois, c'est quoi un code ? À quoi ça sert ? Déjà juridiquement, pour qu'on voit un peu ensuite comment ça
là, en fait,
peut servir certains intérêts non juridiques.
Bah, y a eu une ordonnance du gouvernement qui reprend toutes les mesures en fait, qui existaient a priori, qu'ils ont déterminées dans le champ de la sécurité intérieure. Donc, que ce soit des mesures propres à l'OPSI 2 notamment, dont vous avez déjà parlé, je pense, plusieurs fois dans l'émission, et genre sur ces appareils sécuritaires qui se développent, sur les contrôles du trouble à l'ordre public, sur l'usage des armes en milieu public, sur la question de la sécurité civile notamment, et toutes les agences de sécurité, toutes les législations concernant rentrent dans ce code, mais ça ira également sur la lutte antiterroriste et sur justement...
Donc en fait, un code, c'est plus large, ça a plus une logique réellement qu'une simple loi comme ça au milieu de rien ou qu'un décret qui paraîtrait en fait.
Ouais, c'est ça, c'est clair.
Et ça en regroupe notamment aussi.
Ça marque une volonté politique, ouais. En fait, voilà, de codifier, donc de regrouper toutes les mesures qui existent déjà, ouais. Pour créer ce qu'on pourrait appeler une autonomie juridique en fait. On crée un domaine propre et de fait, la création de ce domaine, ça illustre une vraie volonté politique. En tout cas, c'est un vrai enjeu politique, bien que justifié dans un rapport au gouvernement comme de simples mesures pratiques pour que les choses soient bien plus claires pour tout le monde, qu'on s'y retrouve bien, alors qu'évidemment, c'est une...
Voilà, parce qu'à la base de tout, un code, ça n'a pas valeur de loi. Ça n'a pas valeur de loi. C'est un dico qui regroupe différents textes juridiques de différentes valeurs. Donc aussi des choses qui ne sont pas des lois, mais qu'on va mettre en pratique immédiatement parce que par contre, bah, c'est regroupé dans le dico. Enfin, tu vas d'une page à l'autre. Tu vois, où est-ce que c'est la loi et où est-ce que c'est la technique que j'ai le droit de mettre, enfin, d'appliquer en rapport à cette loi, quoi. Donc effectivement, ça se présente comme un outil pour huiler les rouages à la base de tout. C'est là pour simplifier au sein de la diversité et de l'éparpillement des différentes lois qui concernent la sécurité intérieure. Sauf que si à un moment donné, ça... Il semble qu'il y ait un besoin de créer cette espèce de d'encyclopédie universaliste de la sécurité intérieure, c'est qu'on est à un moment donné où on veut définir ce que c'est que la sécurité intérieure et où la sécurité intérieure, ça devient un problème qui est constitutif, voilà, de comment est-ce qu'on va gérer un État, quoi.
Et juste donc pour contextualiser, pour revenir à ce qu'on disait un peu avant, à cette espèce de crédit moral, il faut savoir, là, tu disais 13 mars 2012, appliqué le 1er mai prochain, c'est aussi juste après un acte, voilà, de terrorisation, entre guillemets, qu'il y a eu en France, et où tous les stéréotypes les plus imbéciles et les plus dénués de sens ont été lâchés à la soupe populaire dans les médias. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, on a de quoi le vendre, ce code de la sécurité intérieure.
Voilà, c'est ça. Ça passe comme une lettre à la poste, un peu.
Bah, c'est un peu l'ambiance générale, hein. Là, ça commence à faire beaucoup d'années où on nous pompe avec les questions de l'insécurité, personne ne la voit, mais elle est omniprésente, et de fait, ça crée tout un tas de justifications pour les politiques, quoi. C'est-à-dire qu'à partir de ça, eux, ça leur permet, bon, on empiète un peu sur vos droits, mais c'est pour votre sécurité, il n'y a pas de souci. Et puis, à ce rythme-là, on court vers l'État autoritaire, ça fait, je crois, aujourd'hui, plus beaucoup de doutes.
Voilà, que d'ailleurs, comme citation, vous avez déjà cité l'article premier un peu de ce code qui dit que la sécurité intérieure est une condition de la liberté individuelle. Voilà, elle est même pas là pour préserver, quoi, c'est une condition. Voilà, donc d'abord la sécurité intérieure, ensuite la liberté. Alors collectif, je vous en parle même pas, c'est même pas cité, quoi, ça n'existe pas. Mais justement, dans ce sens-là, sur la volonté d'un champ autonome, même juridique, sur lequel on peut s'appuyer, il y a une idée un peu de construire un climat de guerre, quoi. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment, à travers, au niveau législatif, juste un nouveau champ juridique autonome, on arrive à mettre une atmosphère un peu guerrière, quoi, de l'ordre de il y a un problème de sécurité intérieure, il faut s'en occuper. Et d'ailleurs, parce qu'il y a un problème, et ça se manifeste par différents biais. Et là, on définit les biais de cette guerre intérieure, plus ou moins, qui n'existe pas, hein, d'ailleurs, hein, elle est tout à fait imaginaire.
Bah, en tout cas, ouais, c'est sûr que la codification, y a un passage idéologique clair, et c'est assez effrayant de voir à quoi il correspond dans les textes qui sont regroupés et la nature des textes, quoi. Et effectivement, quand on lit, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que c'est sur la détention d'armes, l'usage des armes, le terrorisme et le droit de manifestation, sur l'attaque, toutes les peines y étant liées. Alors, c'est hyper technique, parce qu'ils disent pour un souci de clarification codifié, et pourtant, c'est illisible, en fait, comme texte, en l'état, genre... Ça renvoie à des codes, mais à d'autres codes, mais eux-mêmes codes qui ont été modifiés par la présente loi, et donc ça fait faire des allers-retours partout. Et techniquement, c'est hyper compliqué. Et dès que c'est des sujets un peu sensibles, type quand est-ce qu'on utilise des armes de guerre en cas de trouble à l'ordre public, on renvoie à des décrets plus tard. On se mouille pas là-dedans. Mais en tout cas, il y a quelques mesures phares sur lesquelles on peut s'arrêter, notamment sur la question du droit de manifestation. Donc droit de manifestation, rappelons-le aujourd'hui, qui a valeur constitutionnelle, en tout cas, et qui est soumis à la déclaration. Donc, il n'y a pas d'autorisation à obtenir de qui que ce soit. On est là, il y a trois personnes, ils déclarent en préfecture à Paris ou dans les mairies, dans les régions, et c'est purement déclaratif. Là, il y a une subtilité qui a été rajoutée, c'est-à-dire que ce principe n'avait pas été légiféré puisqu'il avait valeur constitutionnelle. Là, on légifère et on dit, mais ça peut être interdit pour tout trouble potentiel qui pourrait être créé à l'ordre public. Et là, on ouvre en fait dans le champ du législatif le discrétionnaire du préfet qui va dire non, non. Et même ce qui a été rajouté, c'est que si le maire est favorable, il doit envoyer directement la copie du récépissé au préfet qui lui peut dire non, c'est mort. C'est-à-dire qu'il y a une autorité, l'autorité de police, c'est donc l'autorité directement issue du ministère de l'Intérieur et donc du gouvernement, a priorité sur la décision du maire élu aux élections municipales. C'est quand même assez fort. Ça c'est sur le droit de manifestation. Après on passe sur les diverses sanctions qui peuvent être apposées pour toute forme d'arme ou pas d'arme, pour les cagoules portées et tout ce dont on nous parle depuis plusieurs mois déjà. Mais d'autres questions se posent, notamment sur en cas. Alors la plupart des articles du code, en tout cas dans cette partie-là, sont justifiés par la lutte contre l'antiterrorisme, et notamment sur le traitement automatisé des données. Donc comment on va pouvoir recouper les fichiers? Alors pour les étrangers, les fichiers au séjour avec les fichiers des passeports. Et donc comment la police pourra avoir un accès immédiat sur ces données-là, qui sont, bien que pas réglementées, on n'avait pas encore légiféré pour structurer vraiment ces pratiques de contrôle, bien que ces pratiques étaient en place et on le sait tous. Mais notamment ça va aussi sur les interceptions de liaisons téléphoniques ou électroniques, genre qui sont facilitées. Sous couvert d'un antiterrorisme, mais avec un terrorisme qui n'est pas défini en fait à proprement parler, quoi. Qui est un espèce, voilà, tu le disais.
Ça reste ouvert.
C'est la représentation d'un ennemi intérieur qui n'existe pas, qui est polymorphe. Enfin, ça dépend un peu des situations. On le détermine quand on a besoin de le déterminer. On peut prendre l'exemple d'ailleurs assez ridicule dernièrement, ridicule et bien triste, la dizaine d'antifascistes qui sont allés coller avant les assises sécuritaires là il y a quelques temps. Et les types ont été embarqués pour collage d'affichage, ils sont passés par la brigade criminelle, ensuite ils sont passés par la sous-direction antiterroriste. En tout, ils ont fait 62 heures de garde à vue pour 10 affiches, mais on les a reprochés, voilà, de vouloir préparer l'attaque d'un... Voilà,
Après, justement, quand tu disais, voilà, enfin, quand tu disais que c'est des choses qu'on connaît déjà, c'est aussi pour noter un peu cette idée que là, on codifie quelque chose qui existe plus ou moins déjà dans les faits. Par exemple, quand tu parlais du droit de manifestation qui est constitutionnel, aujourd'hui, dans la réalité, quand on va déposer une manifestation, on est confronté au bon vouloir et à l'arbitraire de la préfecture ou éventuellement des forces obscures qui sont derrière, puisqu'on sait très, enfin, aujourd'hui, il y a des manifestations qui sont interdites, et donc ce qu'il faut bien comprendre, même avec cette histoire, enfin sur tous les points que tu as détaillés, même que ce soit sur le recoupement des fichiers ou sur plein d'autres choses encore qui, j'en suis sûr, sont dans ce code, c'est des choses, voilà, on reprend des mesures mais qui sont déjà presque appliquées dans la réalité. Donc c'est aussi pour se donner un arsenal juridique pour mettre à bien toute cette logique, quoi.
En même temps, c'est pour se donner un arsenal juridique et donc effectivement faire aussi que des choses, parce qu'elles sont déjà dans le code sous forme de décret, ne soient pas votées, par exemple, parce qu'elles sont déjà mises en place, que ça roule déjà, que c'est déjà articulé avec les autres choses, que ça semble cohérent et donc qu'il y a un ensemble cohérent et fixe maintenant, c'est-à-dire qui résulte du climat actuel, qui est vraiment, voilà, qu'on passe notre temps à critiquer pendant 7h30 hebdomadaire, voilà, depuis des années, quoi. Et c'est ça aussi, c'est donc le fait qu'on fixe quelque chose qui, effectivement, alors que sous plein de détails, il n'a pas à être fixé, là, on va le fixer par ce code. Et on ne va pas le fixer selon les différentes démarches et ça ne bougera plus parce que, genre, on ne va pas dire on va refaire un code de la sécurité intérieure. Ça n'arrivera pas. Donc, il y a des choses a posteriori qui ne seront pas faites, déjà. Et ensuite, il y a effectivement aussi l'idée, bien sûr, de continuer déjà à dire que, effectivement, ça permet des formes de passe-droit plus simples du politique au législatif, du policier simplement au judiciaire, ensuite, si on descend en termes d'étapes. Et en termes de passe, que ça ouvre, c'est que ça ouvre un champ juridique autonome qui traite d'une terreur abstraite. Voilà, qui traite déjà d'une terreur abstraite. Donc, il y a un champ juridique qui traite de la terreur. Et la terreur, on est quand même tous plus ou moins au courant que c'est un des outils principaux pour la mise en place concrète d'un État policier sous couvert d'autres mots, quoi. Et donc, c'est ça, en fait, qui est mis en relief et qu'on sent, en fait, dans l'intérêt politique d'un code d'ordre législatif.
Et il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que, alors, quoi que dans les faits on puisse en faire, il y avait toujours le recours aux tribunaux qui était possible quand il y a un pouvoir discrétionnaire qui va trop loin dans les libertés qu'il se donne. Et donc il y avait toujours ce recours aux tribunaux qui était possible, bien que compliqué et coûteux. Là, c'est fini. C'est-à-dire que les garde-fous judiciaires sont balayés, la loi est la loi et le juge ne peut faire que l'appliquer. Et donc, en légiférant sur ces pratiques-là, on les rend parfaitement légales et donc inattaquables. Et donc, on renforce l'appareil sécuritaire par un pouvoir unilatéral, quoi.
À savoir que, bien sûr, même si les trois quarts de ces rendus, et ça, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, sont souvent pas favorables aux gens qui attendent des actions en justice, il n'en reste que les actions en justice, c'est aussi des fois des moyens par le biais desquels on rencontre des gens, on fait des choses, et au moins on se met dans un esprit un minimum combatif, et c'est un petit peu aussi ce dont on a pu traiter de temps en temps, sans parler de légitimité d'une justice ou pas, et que c'est un champ de moins sur lequel aussi on peut être dans une certaine dynamique. Voilà.
Et lutter. Et,
voilà. Donc on fait une petite pause musicale et on revient tout de suite au fond près du radiateur.
Ça traîne tard pour du chafran. Ça chine partout, y'a du chiffre et à la décorade. Et saurait comme mes pompes un jour de pluie. Pour une paire d'obus à perte de vue. Puis t'affardé ce genre de fille.
en paix avec toutes les billes de mes associés. Le petit dernier de la famille, à l'étang qui règle le parquet, pas les couilles atrophiées. Sais-tu le fric que ça donne de nous parodier? Si les talibans cherchent des paroliers, affairiste qu'il y a fort à parier. Avant d'être artiste, je vais pas le renier. Avant d'être artiste, car ils n'ont jamais vu le danger de près. Rester noir ou arabe en France est une conduite à risque qui le discuterait. Serait hors sujet, serait hors sujet, serait hors sujet. On multiplie les procès et les projets. Retour des grands messieurs du rap français qui le discuterait. Serait hors sujet, serait hors sujet, serait hors sujet.
On ne compte plus les palafs, les rafles et le taf qui nous reste à faire. Excuse-moi de prendre ce pays de faf pour une vache à traire. Du fond de mon putain de cratère où je ne crache que du feu, rien de neuf que du vieux et autant de keufs que tu veux. Jamais en manque de haine, pour ça l'état nous ravitaille jusqu'à notre ADN. Problème de taille, tous accoutumés du bitume dont nous sommes les âmes en sombre. Est-ce que tu peux leur dire qu'on ira pisser sur leur tombe?
Car ils n'ont jamais vu le danger de près. Rester noir ou arabe en France est une conduite à risque qui le discuterait.
Serait
hors sujet,
serait
hors sujet,
serait
hors sujet. On multiplie les procès et les projets. Retour des grands messieurs du rap français qui le discuterait.
Serait
hors sujet,
serait
hors sujet,
serait
hors sujet.
Hors sérail, hors champ, hors fèvre et hardcore. Plébéien, fils de rien, algérien offshore, franc-tireur météore, cartouche fumivore, les orties sont ma flore, accusés de bouche au bal fou sans mort. Tous mes types de noblesse ont gardé leur cuir, leur or, leur tête, leur couille, leur sourire. Je fais grâce à la cour et aux cons de leurs brosses à reluire, et les promesses de muselière à mon musée de cire.
À mon musée de cire. Car ils n'ont jamais vu le danger de près. Rester noir ou arabe en France est une conduite à risque qui le discuterait.
Serait
hors sujet,
serait
hors sujet,
serait
hors sujet. On multiplie les procès et les projets. Retour des grands messieurs du rap français qui le discuterait.
Serait
hors sujet,
serait
hors sujet,
serait
hors sujet. Car ils n'ont jamais vu le danger de près.
Voilà, de retour au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM comme tous les mardis 19-20h30. Je vous rappelle nos adresses utiles, c'est le www.aufondprèsduradiateur.fr. Le site internet et l'adresse mail, c'est aufondprèsduradiateur@no-log.org, tout en minuscules, en attaché, sans accent. Voilà. Et puis bah, on était en train de parler du code de la sécurité intérieure là, qui est en train de se ficeler pour le 1er mai prochain. Et quand même, on notait donc que les deux cautions principales de ce code, c'est l'immigration et le terrorisme, hein, qui sont quand même les deux mots qu'on entend énormément liés à toute cette légifération.
C'est, en tout cas,
cette législation, ouais. Voilà. Excusez-moi. et bref. Et en fait, on voulait noter évidemment que ces deux choses qu'on nous représente, comme un danger potentiel pour tout citoyen, entre guillemets, de la République, entretiennent même des liens pervers entre eux, en fait, parce que s'entremêlent aujourd'hui même dans les discours qu'on entend et dans les lois qui sont imposées dans ce code.
Ah ouais, non, c'est aller jusqu'à du sale. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Marine Le Pen. Combien de Mohamed Merah sur des bateaux dans la Méditerranée? Combien de Mohamed Merah dans les avions qui viennent par centaines par jour? Mera qui était français, rappelons-le, tout va bien.
On
ne
va pas lui donner plus de crédit.
Non, c'est pas pour. C'est sûr, on ne va pas dire ces paroles. Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est des liens qui sont faits, et pas que à l'extrême droite, ou en tout cas, si, que à l'extrême droite, mais pas que au Front National. En tout cas. C'est des liens qui sont faits et qui sont, comme tu le dis, hyper pervers. C'est-à-dire qu'on crée en fait la représentation d'un ennemi imaginaire, genre le terroriste ou l'étranger, celui qui a des pratiques qui ne nous conviennent pas. Et on crée des espèces de mythes comme ça, et des mythes qui vont légitimer toutes ces sortes de pratiques. Et ça, c'est vraiment dans un processus de criminalisation qu'on va retrouver sur plusieurs domaines et qui vont se résumer dans le code de la sécurité intérieure, hein, que ce soit la lutte contre le terrorisme, que ce soit la criminalisation du mouvement social, la criminalisation de l'étranger, en fait, puisque c'est le plus suspect des suspects et c'est celui qui sera toujours confronté aux pratiques administratives les plus poussées et les plus totalitaires.
En gros, c'est une façon un petit peu de définir les gens, en fait, selon la sécurité intérieure. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, il n'y a pas de droit du travailleur et dedans, il y a la loi sur la manifestation ou la grève même de travailleurs. Non, ça se place, c'est autrement que ça se place. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu dis il y a une question de l'ordre de un peu faire peur aux bons petits citoyens et qu'en même temps, on dit que dans ce code, le premier article, c'est la sécurité intérieure, c'est la condition de ta liberté. C'est une façon de dire que, justement, c'est en définissant en même temps ce que c'est qui est la personne qui a le droit à cette liberté, qu'on va définir aussi tous les gens qui potentiellement sont dangereux pour elle et qui, eux, vont appartenir au secteur de la sécurité intérieure et à qui, eux, on va appliquer certaines lois. Voilà. Donc, en fait, c'est juste, à un moment donné, une fois de plus aussi, continuer à agiter des fantômes afin que les gens qui seraient dans une situation qui, a priori, ne correspond pas à ces trois thèmes principaux du code, eux, risquent pas de bouger et véritablement aient l'impression que c'est le fait que toutes ces catégories de population soient opprimées et réprimées qui font que lui, il a cette liberté-là. C'est-à-dire que ça devient, très ouvertement, c'est la répression de certaines personnes qui répondent à certaines pratiques qui va être la condition de la liberté d'autres. Et c'est ça qu'on dit aussi.
Non, mais c'est exactement ça. Et en plus, même quand tu disais, par exemple, Mohamed Merah, il est français. On a tendance à l'oublier, entre guillemets, dans les médias quand on entend certains discours. C'est que aujourd'hui, il y a une véritable volonté aussi de c'est plus seulement aussi une question de sans-papiers, d'avoir des papiers. On essaye véritablement de rejeter l'autre, l'étranger, l'immigré, mais quel qu'il soit, qu'il ait la nationalité française, que le mec il soit un peu rebeu, alors qu'il a grandi, que toute sa famille a vécu en France depuis des années et qu'il ait grandi ici, ça a plus vraiment une importance aux yeux de pas mal de gens dans ce pays, quoi. Et c'est ça qui est assez ouf de noter. Au même titre que, par exemple, on a parlé de la déchéance de la nationalité, qui, je pense aussi, est un point de ce code, sûrement peut-être, en tout cas, dans les...
Les raisons pour lesquelles on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité.
Voilà, qui, sûrement dans les prochains ou dans les précédents, ou voilà, il doit être là, quelque part, cette histoire de déchéance de la nationalité. En tout cas, on en a entendu parler dans la bouche de pas mal de politicards, et ça témoigne d'une véritable, d'une véritable reprise en main des questions, de presque des questions raciales par le pouvoir, des questions de qui a le droit de rester sur notre territoire en fonction de son faciès, de sa couleur de peau. Et ça, c'est une véritable logique qui est aussi en train de s'instituer par des lois comme ça. Et ça fout les boules, ça fout énormément les boules.
En fait, juste pour pour recentrer l'idée, effectivement, c'est celle du fait qu'il nous a semblé, en tout cas à la lecture du texte et en discutant un petit peu tous ensemble, que à travers la construction de parties de population qui seraient potentiellement dangereux, on opprime l'ensemble des gens qui participent à cette population et que donc dans ce sens-là, ça ne concerne pas que seulement les gens qui sont opprimés ouvertement, mais qu'en réalité ça concerne aussi tout le reste des gens et que c'est aussi ça dont ça parle quand on parle d'une loi, parce que justement genre ça semble abstrait et ça vaut pour tout le monde et en fait ça vaut rétroactivement pour tout le monde de manière répressive, et c'est ça qui semblait transparaître beaucoup de ce texte.
Mais moi, je trouve qu'il y a un point à noter, pour revenir un peu sur un plan un peu juridique, c'est comment tout ça s'est devenu possible. Comment est-ce que juridiquement, ça se tient d'avoir de tels états d'exception? Et en fait, ça, en gros, c'est une faverie de la Ve République. C'est des articles de la Constitution qu'on dit, on détermine des domaines de la loi, hop, tout un tas de domaines qu'on énumère, tout ce qui est hors de la loi sera par voie réglementaire, et donc par décret. Et notamment, dans ce domaine, n'est pas définie la question de l'ordre public. Et c'est en fait, c'est à partir de cette notion, ça va s'articuler à partir de l'ordre public et des définitions qu'on va donner à l'ordre public, qu'on va pouvoir appliquer tout ça, et donc où il n'y a aucun contrôle constitutionnel qui peut être fait parce que c'est deux droits donnés au gouvernement. Et ça, ça a été une brèche juridique en fait énorme dans les conséquences que ça a pu avoir sur l'évolution de l'état sécuritaire et du droit sécuritaire de manière générale.
Voilà, ben, je crois qu'on a un petit peu fait quand même un grand tour. On a pris pas mal de temps pour discuter de tout ça, mais c'est parce qu'en même temps, ça nous semblait intéressant d'essayer de faire des liens et de les partager avec tout le monde. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, on a une adresse mail, voilà, et que je vous rappelle, au fond près du radiateur, @no-log.org, tout en attaché, tout en minuscule. Bien sûr, pour clore ce sujet, on termine en musique, donc on va faire une petite pause musicale et on reviendra ensuite pour terminer l'émission avec une bonne rubrique FAF.
You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
Match, je suis plus un jeune de 20 ans. Je compte plus les heures passées derrière le microphone. Et pourtant, le bon vieux temps. Ma première scène avec les titres, mes premiers fleurs, mes premiers potes. Tu connais le trip, mec, y'a pas de routine. Fais les choses bien, lascar toi-même. Tu sais qu'on a rien sans rien. Forgé par le bitume, squat le micro pour ma fortune. Des frustrations, le visage froid quand je suis loin de chez moi. Plus le temps de rêver, des rêves qu'on n'aura jamais. Des belles voitures, des belles maisons, le fric et puis le succès. La cave au studio, j'ai trimé pour sortir un disque. Je remercie Dieu, ma famille, Mehdi et Alex. Pour un retour à Londres, parfois ça défouraille. Racaille avec une bonne attitude, messieurs, mesdames. Je parle de fait réel, en temps réel, pour ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Aujourd'hui j'ai 25 ans et je vis dans le même HLM qu'avant. Enfermé entre quatre murs, combien d'amis derrière des barreaux. Je sais que la base est dure, grâce à la musique j'ai pu avoir un nom et le respect. Ma source est l'angle de grand époque de qualité que je fais. Jeune Lascar, bon Lézard, repose en paix mon père. Ainsi pour tous les potes qui sont partis, Jack, qu'on parle vrai du faux. Fais les choses comme il faut, où il faut, mais s'il faut.
N'écris sa mère s'il faut le faire.
Anti-Africain, maghrébin, c'est maintenant pas demain. Débrouillard dans la vie, débrouillard comme un chien. Bref, sur ce j'en ai fini et je me retire. Et si tu veux ma peau hors ligne et mon empire.
Fais les choses bien comme il se doit, car la vie ne pardonne pas. Je te parle avec le cœur même si j'émerge d'une cité. Je me démerde comme un gage pour m'en tirer et ne pas y crever. J'évite les regrets, ce que j'ai dans mon esprit c'est maintenant ou jamais je le fais. Sinon après c'est fini, j'ai de l'ambition à dépenser, du flouze à ramasser. Je gaffe quand même aux tentations pour plus jamais me ramasser. Combien de prières, je ne compte plus. Les mauvaises actions et les sermons de mes frères. Sur la rue et la prison, à la sueur de mon front qui brille en vie de quelques millions. Les cadres ou illégales, peu importe, non. En 97, je garde espoir et nique le bénin. Bien fort, suffit d'y croire aussi dur que de faire. Bref, à base de Mike, on défraie les chroniques et lâche des freestyles. Prends ça pour des représailles. Après mon maxi, voici mon album en bonnet. Bonne forme, fort, bouger ta go, façon vitri, bad boy. C'est maintenant ou jamais, négro. Je fais mon vice, je protège mon dos. Normal, j'attise la convoitise. Ouais. À genoux pour des jours meilleurs, oh mon Dieu. Une parole en ma faveur, cauchemar dès que j'ouvre les yeux. Chaque jour, que Dieu le Père fait ici-bas. Man, c'est un combat dangereux et tortueux que le mène. À bout de force, à bout de souffle, mon but est resté fixe. Atteindre le top et rouler comme un boss. Quitte à prendre des risques, 24 ans déjà. Et je tiens encore sur un fil pour être à la hauteur. Je n'ai plus de temps à perdre, blada, faut que ça brille. Je parle avec le cœur aussi, j'émerge d'une cité. Thank you.
On est de retour au fond près du radiateur sur 106.3 FM, comme tous les mardis soirs, voilà. 19h-20h30.
Grand moment, là, tout de suite, la rubrique FAF.
Yes, ça y est, rubrique FAF. Près du radiateur, 106.3 FM, et tout de suite, la rubrique FAF.
FAF.
Qu'est-ce qu'il y a ?
La rubrique FAF.
Je traque les FAF.
I'm ready.
Droite, gauche, même son de client qui sonne faux.
C'est un scandale.
Je traque les FAF.
En
je traque les FAF en costard.
Les partis politiques pire.
Dans la gauche caviar.
La droite de la droite au pouvoir.
Délation France aux Français.
FAF.
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 Tu veux mon nom,
au fond près du radiateur.
Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
Voilà donc la rubrique FAF aujourd'hui. On vous l'a gardée spéciale, mais ça reste quand même sur le thème. Donc bah de toute cette machine à enfermer, à expulser, cette machine répressive, cette machine sécuritaire que devient même hein, l'État français, la République, voilà. Et là, on atteint quand même un nouveau degré de répression et
de faf,
tout simplement. Puisque bah, malheureusement, on n'a pas son nom à ce chef d'entreprise, mais on aurait bien aimé le lâcher comme ça à la populace. En gros, c'est l'histoire, voilà, déjà qu'on parle pas mal des sans-papiers, de l'exploitation dans le travail par de la main-d'œuvre immigrée aujourd'hui qui est beaucoup plus malléable, exploitable, éjectable à merci par les petits patrons et notamment via les agences d'intérim souvent. On a déjà pas mal parlé des conditions du salariat de ces gens-là et même du fait que pourtant ils ont des fiches de paye avec des impôts déclarés, ils payent des charges, ils cotisent à la sécurité sociale, ils contribuent au système français, pourtant ils n'ont rien en retour quand on prend le tableau comme il se présente et dans la plupart des cas, les gens sans papier qui travaillent n'ont aucun droit en retour de ce qu'ils payent comme charge en bossant pour une entreprise.
Voilà, c'est de la double exploitation.
Exactement. Et là, pour un cas précis, ça s'est vraiment très mal passé puisque licencié de son entreprise par un patron, qui avait une raison très fumeuse pour le renvoyer, il a porté plainte donc au tribunal des prud'hommes. Et sachant son employé portait plainte au tribunal des prud'hommes et sachant la date et l'heure à laquelle devait avoir lieu l'audience au tribunal de Nanterre, le patron a bien fait de prévenir la police pour venir cueillir la personne sans papier directement à la sortie de la salle d'audience. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ce sans papier a été arrêté dans les locaux même du Conseil des prud'hommes le 11 avril. Que la conséquence de la plainte d'un travailleur sans papier devant la juridiction spécialisée dans le droit du travail soit son arrestation immédiate est une façon encore inédite pour l'employeur de se prémunir du risque de revendication par ses salariés de leurs droits. L'activité policière vient ici en renfort des employeurs. Bref. Donc Monsieur K, on va l'appeler comme ça, a été régulièrement employé depuis août 2010 dans une entreprise de restauration collective. Il est en situation irrégulière, il n'a pas pu trouver son emploi en se présentant sous l'identité d'une autre personne. En gros, il a donné une fausse identité pour pouvoir bosser, quoi. Et du coup, en l'apprenant, il semblerait que l'employeur est licencié. Donc Monsieur K, en gros, il lui dit juste « reviens pas demain », quoi. Voilà, entre deux fourneaux. Bref, Monsieur K, il estime avoir des droits puisque sur ses fiches de paye, il y a quand même inscrit des choses et même que le code du travail qui a été réformé très récemment, même en 2011, qui a recadré justement la juridiction concernant le travail des sans-papiers, qui renforce plus ou moins les droits visant ces personnes-là, en tout cas c'est une rumeur, il se dit je vais aller porter plainte au tribunal des prud'hommes accompagné par des camarades syndicalistes et puis la suite on la connaît, le patron il a appelé les flics en sachant l'heure et la date donc de l'audience et puis il est venu se faire cueillir juste à la sortie. Donc on voit encore à quel point tout un peu est lié, même maintenant on prend le domaine propre du travail et carrément dans sa plus grande caricature avec l'exploitation de quelqu'un qui traverse la Méditerranée pour venir travailler en France et qui s'estime quand même pouvoir avoir des droits dans cette République française comme on lui a tant dit
quand on lui a vendu
voilà et qui lui arrive ça, bah voilà, on est dans une autre échelle encore maintenant de répression de sécuritaire et même les petits patrons là s'y mettent, donc faut vraiment faire attention quoi.
Bah ouais, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, voilà, hein, c'est un véritable état d'exception, quoi. Je veux dire, véritablement, voilà, parce que avant toute chose, d'abord, t'es étranger. Voilà, t'es exploité, tu vois, genre, t'es humilié et tout, mais non, mais d'abord, avant toute chose, t'es étranger, et comme l'étranger, bah, c'est dangereux, d'abord, avant toute chose, on va t'arrêter. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir souvent, et d'ailleurs, enfin, dans le cadre du travail et du droit, c'est quelque chose bah, qui peut se manifester aussi dans le fait que, par exemple, effectivement, il y a des gens qui, des fois, bah, donnent leur identité, gagnent de l'argent avec, et quand ils demandent des régularisations, ils vont en prison, parce que, eh bien, ils doivent de l'argent à la France, donc ils vont d'abord aller en prison, ensuite aller en centre de rétention et ensuite être expulsé. Et ça, c'est des situations voilà, qui, une fois de plus, servent toujours les intérêts des mêmes personnes. Et on ne cessera jamais de le répéter, je crois, ici, quoi. Donc, bah, je crois qu'on va terminer l'émission avec quand même un petit peu de musique. Et puis, on reviendra pour les trucs d'usage de fin.
Juste avant, quand même, on va rappeler, quand même, vu qu'on parle de tout ça, et qu'il y a quand même une émission qui va beaucoup en parler là, ces prochaines semaines sur la même antenne et qui vont sans doute aussi vous parler bah, de cette logique même qui est européenne, hein, puisqu'on parle beaucoup de cette Europe forteresse et puis justement... les frontières entre États dans l'Union européenne. On parlera donc de la rétention en Europe en général. C'est donc le vendredi 4 mai, il me semble. Voilà, hein. C'est le vendredi 4 mai de 19h à 20h30 sur la même antenne. C'est sans papier ni frontières.
Voilà, un petit peu de musique et on revient ensuite.
Glamour glitters and gold. I unfold the scroll. Plant seeds to stampede the globe when I'm deceased. But then the beast arise like yeast to conquer peace, leaving savages to roam in the streets. Live on the run. Police paying me to give him my gun. Trick my wisdom with the system that imprisons my son. Smoke a gold leaf, a whole heat. Nonchalantly, I'm raunchy. But things I do is real, it never haunts me. Wow, funny style, niggas rolling a pal. Use the heads, profile on a bus to Rikers out. Holding weed inside they pussy with their minds on the pretty things in life. Getting props as a true thug's wife. It's like a cycle. Niggas come home, some will go in. Do a bullet, come back and do the same shit again. From the womb to the tomb, I presume the unpredictable. Gun salute. Life rapidly, that's the ritual. Here's a toast to my foes, trees and women.
Deja vu.
It's like a whole new beginning. Here's a toast to my foes, trees and women.
Deja vu.
It's like a whole new beginning. Here's a toast to my foes, trees and women.
Deja vu.
It's like a whole new beginning. Here's a toast to my foes, trees and women.
Deja vu.
It's like a whole new beginning. Blunts, thugs and alcohol, what a mixture. Just picture your life as a whole. Judge the court, they convict you. They telling you your state of mind like you worthless. So he curses his mom saying Bible verses. That's all she works with. But miracles never leave the churches. Instead it hits the pockets of the preacher just to purchase a house where the swimming pool labels me a sinning fool. I'm just a nigga who inherited a winning jewel. To be a trendsetter, we're never subject to respect. This and all respect, it was the essential. The street life, hustle and the struggle broke ghettos. Rolling coke settles slow inside a glass kettle. German Levy on my TV, lifestyles and living easy. Got my crew tense, plotting the gyps to get whips with BBs pushing cakes. New interactions with templates, celebrating elevation in the seas that we make.
So how you like that?
Here's a toast to my foes, trees and women.
Deja vu.
It's like a whole new beginning. Here's a toast to my foes, trees and women.
Deja vu.
It's like a whole new beginning. Here's a toast to my foes, trees and women.
Deja vu.
Like a whole new beginning. Here's a toast to my foes, trees and women.
Deja vu.
It's like a whole new beginning. Escobar life, gyms and raw Timbs. Gators for pretty boy haters in Vegas with chicks tricking fortunes. I'm glistening.
bells and cops whistling. Still I'm drifting in the high blunts like insulin. 95 I drive high zoning. Stash box zone in my trunk. I flash knots deep golden. Look at me now, more I'm blowing. But how far? Cars, cash, and bitches got me out more in things you never dreamed I could vouch for. Snake niggas slither on the air likes. I ain't a Christian, but I find that we praying like never the one to ask all the time to a saint. I'm asking a nine, I think, but make my problems sink. Down a canal similar to how we drink. Distinct diamond flooded sphinx shines on my links. Drug money, snorting bitches in the end of time. Got my mind till I flatline, nigga, give me mine.
Deja vu. 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 Deja vu.
In the mist, born lyricist, cold red, metaphor, choke, cold the premises, cash stack like tenements of black hood, sentences crash in your chest like black woods, mash your black hood, girls to wax cause I rap good, 45 leather but the dash wood, cash good, I spit 16, come weak, who's hopping out the van like 18, MEDs like a bottle with Jim Beam, street model white tee, Nikes with creased jeans. Test me, better get prepared. Sweet dreams, cause tomorrow you'll be waking up to nightmares. Rock, here's the future, center of attention. You the past like maneuver. True, but when I wrote this, you won't harm me. Lyrically a problem, one who can rock your army. Yeah, yeah.
I ain't a tough guy, baby, but I'm tough enough to touch you. Deep inside, in your soul, a place so cold I rush to. But let it sink in like ink didn't stay. That brother's gonna be around, so what other men say so. Sign, still deliver that ladies, they want the package. But maybe now when they ask it, somebody else's asset. I like my asses, fat, not flat. Got wrapped down pat now, let us move past
this. I take them plastic to massive, no itty bitty titty committees. I run in cities, that's pretty. Some of them shitty, some pretty, most of them idiots. Gobbling and swallowing the hollow when they self. Seem like some cuff follow on the autobahn. I'm hollering, spotted them. I saw them in Copenhagen. My God, I let her out on the toboggan. It's awesome. Ha, I got it. Don't stop. Get it. It'll probably be your girl if you ain't a hospital.
I'm waking up from the night times. Each night we set a tight rhyme. The lights is on for action, setting go full throttle. We let it go on a bottle. VS, no tomorrow on me. OP, Hennessy, I'ma borrow from the telly, telegram me. But I'm outside your border, plus the salves on order on deck. Sound check, mic check, what the fuck's next? Hit them with the sirens, that's it. If I'm lying and I'm alone, to say it quick.
You let the shotgun say to the head. A sawed off double babble riddle that tickles your mentals. But the punchline and giggles. Mind blowing, I'm high scoring when rhyme throwing. Hot spitter. Chuck it like little bug out and keep going. When I'm flowing, heads bobbing like I'm knowing. Charlie Chapman macking without words poking, get them open. She likes my woodwork. I'm a craftsman. Jesus was a carpenter too. Kill, why you laughing?
De retour au fond près du radiateur tous les mardis 19h-20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Voilà, donc on est sur les 10 dernières minutes, même pas, de cette émission. On s'est terminé tranquillement en écoutant un petit peu de musique et tout comme ça. Et juste avant de passer l'antenne donc à Zéro Hebdo qui va suivre, etc., on a peut-être déjà un petit rencard quand même à rappeler.
Ouais, un petit rencard. C'est vendredi 27 avril, donc c'est Larsen Rock et Constroy qui fêtent les 20 ans de la radio FPP. Un gros concert en perspective, voilà. Donc à la péniche Demoiselle. C'est 57 Quai de Seine, métro Riquet. Et donc les artistes qui seront présents, enfin les groupes, quoi. On peut appeler ça des artistes, hein, c'est du punk rock, hein, de toute façon. C'est les Punaises, King Phantom et les Trois Gnomes. Et d'ailleurs, on fait une grosse dédicace à Bibi, le seul quepon hippie de la planète, donc qui tient son émission avec toute l'équipe Constroy ici même le dimanche de 18 à 20h sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel.
Voilà, donc allez-y et tout. Si vous ne nous voyez pas, c'est qu'entre-temps, on s'est fait casser les genoux parce qu'on aura subi la réponse à notre position vis-à-vis du punk rock. avec le générique, arrive le moment où j'annonce les adresses Internet. Si vous voulez écouter nos émissions, les télécharger, voir les articles qui peuvent être écrits en fonction et les liens, c'est au fond près du radiateur.fr. Et si vous voulez nous laisser un message, des commentaires, des infos à diffuser, qu'on chargera, dont on chargera de parler pendant l'émission et tout, ce sera au fond près du radiateur, @no-log.org, tout en attaché, tout en minuscule. Voilà. Donc déjà, en cette fin d'émission, je remercie Théophile d'être venu.
Bah, merci à vous, hein, merci, à bientôt.
C'était cool que tu sois là, tu vois, une case dédiée donc à la technique et tout qui a assuré. Et puis, le grand moment des cases dédiées générales, donc à tout, déjà les absents, Sarah, Tom, Mouloud et Raph, des gros, tu vois, une grosse case dédiée. Ensuite, des volontaires.
À tous les gens qui luttent, à tous les gens qui sont enfermés, tous ceux qui se dépatouillent dans ce monde de plus en plus chaud. Et puis, moi, je voulais en placer une toute particulière à Hamza, au Bled, à la Sardine, et puis à Boualem aussi, et à Yaskamaz, hein, qui sont toujours de l'autre côté de la Méditerranée. On leur fait des grosses bises.
Voilà, tout un tas de dédicaces, Qui d'autres ?
Ah ouais, moi j'en avais une autre aussi.
Ah bah ouais, toi t'as toujours une case dédiée.
À Maya aussi, au cheminot là, tout récemment, à tout le monde.
Voilà, et de puis, fait.
Voilà, c'est assez daron.
À Marianne, à tout le monde, tu vois.
À Momo, bon anniversaire, hein, Momo.
Ah, bon Momo, anniversaire, bon voilà, super anniversaire. Et une grosse dédicace, donc à Zéro Hebdo, à qui on passe l'antenne. Pour ce qui est de nous, on est rediffusé vendredi de 7h à 8h30 s'il y a des volontaires. Et puis, on sera là mardi prochain à 19h. Voilà. Ciao les copains.
Ciao.